J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens. Au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblée en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.
Je vous invite à la prière. Prions. Merci, notre Père, pour ta parole. Merci pour l'occasion ce matin de l'entendre. Nous voulons te demander de nous parler par cette parole, de nous façonner, de changer nos cœurs, de nous remettre en cause là où nous avons besoin d'être remis en cause. Aide-nous à voir la gloire de ton Fils et à donne-nous l'envie, par cette parole, de le suivre encore plus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons terminer cette série de prédications. Ça fait plusieurs mois même, en fait, que nous avons été dans cet épître de Paul aux Philippiens. Donc cette église se trouve à Philippe, donc c'est une colonie romaine dans la partie nord de la Grèce. Alors, nous avons commencé cette série au chapitre 1 en parlant de partenaires dans le travail ou associés dans l'œuvre de l'Évangile. Et le cœur de l'apôtre Paul était dans la joie et rempli de reconnaissance envers Dieu pour cette église de Philippe. Cette église lui était devenue extrêmement chère. Alors pourquoi? Parce que Dieu était manifestement à l'œuvre en son sein. Dieu était en train de façonner leur cœur, leur perspective, la pensée de cette Église. Ils étaient devenus de vrais associés dans le travail, de l'avancement ou de la proclamation, jour après jour, mois après mois, semaine après semaine, du bien fondé de la foi chrétienne. Ils soutenaient Paul, ils avaient le même combat que lui, ils étaient côte à côte dans le même combat que lui. Ils témoignaient eux-mêmes, même quand les choses étaient devenues difficiles. Alors, ceci étant dit, l'église de Philippe n'était pas sans problème. Aucune église n'est sans problème, la nôtre non plus. Pourquoi? Parce que toute église est un rassemblement de pécheurs pardonnés qui, forts de la grâce, de l'amour de Dieu, s'efforcent, oui, avec des hauts et des bas, à vivre d'une manière digne du Seigneur. Alors, Paul a déjà évoqué des rivalités au sein de cette église au chapitre 2. Et la semaine dernière, nous avons abordé le début du chapitre 4, où Paul a parlé d'Évodie et de Saint-Tiche, deux femmes qui avaient l'estime de l'apôtre, qui étaient vraiment des collaboratrices avec Paul, mais ces femmes n'arrivaient pas à s'entendre bien. Et Paul a dû les rappeler, et nous rappeler d'ailleurs, que nos rapports les uns avec les autres doivent être profondément marqués et façonné par la mentalité, l'attitude, la pensée de Jésus-Christ, le roi céleste qui s'est humilié et qui s'est donné comme simple ou humble serviteur. En effet, Paul a écrit cette lettre, nous sommes maintenant à la fin de cette lettre, pour encourager les Philippiens et pour nous encourager ici, à la Garenne, des années plus tard, à avoir la pensée de Christ. À imiter Jésus, à imiter sa façon de penser, ses priorités. Et ce matin, Paul veut nous parler de comment cette mentalité de Jésus, cette façon de penser de Jésus, impacte notre rapport à l'argent. Paul veut parler à ses associés dans l'Évangile, ses associés à Philippe, du rapport du chrétien à l'argent et aux biens matériels. Alors c'est vrai que dans cette église ici, on ne parle pas très souvent de l'argent, et on essaie de rester plus ou moins discret à cet égard, mais il n'empêche que l'argent et notre rapport à nos biens matériels sont des aspects capitaux de la vie chrétienne et de notre adoration du Seigneur. Alors comme Paul et les Philippiens, nous sommes des associés ensemble ici dans cette église, dans l'œuvre du Seigneur à la Garenne. Notre désir commun, c'est de connaître Jésus et de le faire connaître. C'est notre désir, c'est notre mission. Et à ce titre, c'est important de parler librement, ouvertement de l'argent pour que l'œuvre puisse aller de l'avant, mais aussi pour que nos vies, nos cœurs, reflète l'attitude de Jésus à l'honneur de notre bon Père Céleste. Alors ce matin, nous allons voir quelques grands principes dans ce passage. Alors, premièrement, l'associé dans l'œuvre de l'Évangile doit apprendre le contentement dans le Seigneur. Et deuxièmement, la générosité sacrificielle dans la dépendance de Dieu. Donc, il y a un peu un troisième thème, en fait, la confiance de Dieu là à la fin. Donc, deux grandes idées quand même. Notre contentement dans le Seigneur et la générosité sacrificielle dans la dépendance de Dieu. On va commencer avec cette première idée, le contentement. Alors, Paul commence cette section, cette dernière section de sa lettre en évoquant le soutien financier que les chrétiens de Philippe lui ont fait parvenir. Mais Paul ne veut surtout pas donner l'impression qu'il cherche un nouveau don. Surtout pas. Ce n'est pas son intention. C'est pour ça qu'il dit au verset 11 à 12, il dit ceci. « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Ce qui va dire à propos des dons financiers qu'il a reçus, donc Paul il met tout ça en contexte par ce témoignage où il dit qu'il a appris à être content, à être satisfait, quelles que soient les circonstances. Paul a appris le contentement. Alors, est-ce que nous sommes contents, satisfaits? Est-ce que vous êtes en paix avec votre situation financière ou votre situation matérielle? Alors, personne ne prétend que ces choses sont simples. Et pour certains, ce domaine est vraiment un domaine de souffrance. Alors, soyons clairs. Nous vivons dans une société hautement matérialiste, dans une société qui attache beaucoup d'importance aux biens matériels et au niveau de vie matériel. Les maisons, les voitures, les vacances, les loisirs, les achats, la télévision, les ordinateurs. Les publicités nous envahissent à tout bout de champ, à la télé, dans la rue, à la gare, sur Internet. Elles suscitent des envies et tentent de créer des besoins qui étaient jusqu'à là inconnus. Nous nous comparons, nous jugeons les gens et nous jugeons les sociétés tout entières sur le seul critère du développement matériel. Nous serions dupes, n'est-ce pas, de croire que nous ici, nous ne sommes pas influencés par cette manière de penser omniprésente en Occident. Oups. Voilà, en fait, je vais revenir en arrière. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Paul dit qu'il a appris être satisfait de sa situation. Cela veut dire qu'il a dû l'apprendre. Cela ne coulait pas de source pour lui. Par moments, le fait de manquer de l'argent a dû être pénible pour Paul, frustrant, dévalorisant. Et quand il en avait, il a dû être tenté d'en faire un mauvais usage, peut-être de s'y accrocher de manière malsaine, ou d'en vouloir encore plus. Alors si c'était difficile pour Paul, si Paul a dû apprendre cela, sans l'ombre d'une hésitation, ça sera difficile pour nous aussi. Alors quand Paul parle de la satisfaction, le mot qu'il emploie est littéralement celui qui a donné notre mot, autarcie. Paul a appris à vivre en autarcie. Alors vivre en autarcie, c'est le fait de pouvoir suffire à ses besoins et vivre seulement de ses propres ressources, n'ayant pas besoin de l'aide des autres. À l'époque de Paul, c'était vraiment les stoïques, les philosophes stoïques qui avaient cette attitude-là, cette manière de penser. Mais Paul n'est pas en train de promouvoir la philosophie des stoïques, mais il est en train d'utiliser leur langage pour proposer une voie encore meilleure. Si Paul peut être satisfait, quelles que soient les circonstances, ce n'est pas parce qu'il s'est fermé à toute aide extérieure ou qu'il s'est blindé intérieurement pour ne plus souffrir. Non, loin s'en faut. Mais c'est parce qu'il dépend du Seigneur. Sa satisfaction dépend du Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'il peut dire au verset 13, « Je peux tout par celui qui me fortifie, sous-entendu par Jésus-Christ. » Alors c'est vrai, ce verset est souvent cité hors contexte pour nous inciter à faire des choses qui dépassent nos compétences. Ce n'est pas vraiment le but de ce passage. Le contexte ici est celui de la situation financière et matérielle de l'apôtre Paul. Et le but du verset est le contentement. Le fait d'être content, d'être satisfait, d'être à l'aise avec sa situation matérielle. C'est Jésus qui le fortifie quand il est dans la dèche. Et c'est Jésus qui le fortifie quand il est dans l'abondance. Alors comment ça? Comment est-ce que Jésus peut nous aider quand nous en avons marre des fins de mois difficiles? Ou quand nous avons envie d'une voiture dernier cri? Ou quand notre situation semble défavorable par rapport à celle de nos amis? Quand les pubs nous incitent à acheter de belles choses à crédit? Ou quand notre ambition ou nos désirs nous pousse à toujours en vouloir plus. Alors tout au long de cette épître, Paul nous a montré que son modèle ultime est Jésus, Jésus lui-même. Et que Paul est notre modèle, parce que Paul a calqué sa vie sur celle de Jésus. Il s'efforce de vivre comme Jésus et pour Jésus. Et encore une fois, dans ce passage, le passage de ce matin, nous voyons que le modèle de Paul reflète bien le modèle de Jésus. Au verset 12, nous voyons qu'en Jésus, Paul a été fortifié de vivre humblement ou dans l'humilité. Dans la traduction des Bibles blanches, c'est le mot pauvreté, donc il a appris à vivre dans la pauvreté. Et en choisissant ce mot, Paul nous invite à voir un parallèle avec le chapitre 2, parce que le même mot est appliqué à Jésus lui-même. Donc je cite le chapitre 2, verset 5, « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié, il s'est rendu pauvre lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » Donc Jésus s'est humilié, il a connu la pauvreté, il s'est rendu pauvre. Jésus sait ce que c'est de vivre dans l'abondance auprès de son Père, mais aussi il sait ce que c'est de vivre dans la dèche, dans le dénuement total. Il est né dans un humble étable. Et Paul a appris à être content, à être satisfait, en fixant ses yeux sur son Seigneur. C'est quelque chose qui retentit haut et fort tout au long de cette épître. Au chapitre 1, lorsqu'il parlait de son procès, Paul est là, en prison, il risque la peine capitale. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Il dit, « En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. » Quelques versets plus loin, il dit, « Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Au chapitre 3, il nous a parlé de son passé et son but profond dans la vie. Il a dit, je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller, peut-être devenir pauvre. Je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Alors Paul ne glorifie pas la pauvreté ou l'humilité financière. Il ne dit pas que ce soit souhaitable ou que ce soit mieux de manquer de moyens. Paul n'a pas fait un vœu de pauvreté. Paul n'est pas un ascète. Je pense que tout ce qui est l'ascétisme chrétien, c'est plutôt une dérive historique. Il ne dit pas non plus que ce soit mieux d'être riche ou de vivre dans l'abondance. Il dit plutôt que notre vraie richesse se trouve en Jésus-Christ. Cette richesse, c'est cette justice que Jésus nous donne, cette approbation divine que nous avons en lui, ce pardon complet qui est donné gratuitement comme un cadeau immérité à celui qui place sa confiance en Jésus. Cette richesse est Jésus lui-même, une relation personnelle avec lui, une relation d'amour, de grâce, d'espérance. Espérance parce que Jésus est non seulement notre présent, mais il est également notre avenir. Paul veut que nous comprenions que notre contentement, notre satisfaction se trouve en Jésus. La tentation, c'est bien sûr de fixer nos yeux sur l'argent ou sur notre manque d'argent ou notre manque de moyens ou bien sur l'abondance de nos biens, nos comptes en banque, peut-être bien renfloués. Si notre argent est notre richesse, notre sécurité, notre refuge, que cela se manifeste par une envie constante d'en avoir plus ou l'envie d'en avoir encore plus parce que nous en avons beaucoup, forcément nous n'allons pas connaître ce contentement que Paul avait. Ce contentement, il a dû l'apprendre à travers les circonstances parfois difficiles, parfois dures de la vie. Mais la vie seule ne nous apprend pas tout. La vie peut nous rendre aigres, amers ou jaloux. Fondamentalement, Paul a appris auprès de Jésus. Celui qui s'est dépouillé lui-même, qui ne s'est pas accroché ou agrippé à ses richesses, mais qui s'est humilié, prenant la forme d'un serviteur. Paul a fait de ce Jésus-là son vrai trésor. Son désir profond est de le connaître, de se réjouir en lui, de savourer sa bonté, de goûter à sa grâce. Paul ne l'a pas appris seulement parce qu'il le faut en tant que chrétien ou juste parce que c'est une histoire de discipline spirituelle, ça serait simplement de la religiosité. Mais Paul l'a appris pour ressembler à Jésus, parce qu'il voulait ressembler à lui, trouver sa joie en Jésus. Et c'est ça ce qui honore profondément le Père. Ça, c'est notre culte raisonnable, c'est vivre pour la gloire de Dieu. Alors la prochaine fois que nous disons « si seulement j'avais 100 € de plus par mois » ou « si seulement j'avais une maison plus grande, peut-être des vacances plus longues ou ailleurs », rappelons-nous la richesse que nous avons déjà en Christ. Richesse de cette relation avec Dieu, l'abondance de sa grâce, de ce pardon, de ce statut d'enfant justifié, aimé. La richesse de ce qui nous attend à son retour. Le contentement en Jésus doit façonner notre attitude envers nos biens. Nous sommes à notre deuxième grand point, la générosité sacrificielle. Cette fois-ci, notre modèle n'est pas tant Paul lui-même, mais l'église de Philippe. Paul veut parler de leur générosité à son égard. Paul est très reconnaissant pour le don qu'ils ont envoyé par le biais d'Épaphrodite. Il dit même qu'il en a été comblé et qu'après avoir connu la pauvreté, il est de nouveau dans l'abondance grâce à ce don. Mais la source de sa joie n'est pas tant le fait que maintenant il a de quoi vivre, mais ce que ce don représente. Jetez un coup d'œil sur le verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Paul est dans la joie parce que la pensée des Philippiens, cette pensée qui est profondément marquée par celle de Jésus, s'est mise à fleurir de nouveau. Et cela leur en reconnaissant envers Dieu qui manifestement est bien à l'œuvre en eux. Paul se réjouit parce que les Philippiens sont en train de soutenir l'œuvre de l'Évangile. Ils sont en train d'investir leurs ressources dans l'avancement du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu avance au fur et à mesure que la parole est proclamée, entendue, crue, obéie. Et ça, c'est le travail de Paul, c'est ce que Paul est en train de faire en prison. Paul n'est pas intéressé, il ne cherche pas un nouveau don, mais il est content parce que leur don représente leur obéissance, le fruit de l'Évangile chez eux. Alors au verset 17 dit « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. » Alors lorsque Paul parle de la compte, il parle en quelque sorte de la compte bancaire auprès de Dieu. Il utilise l'image de la comptabilité. Lorsqu'ils investissent dans l'œuvre de l'Évangile, quand ils sont de tout cœur avec Paul, Dieu récompense cet investissement. Alors, ce n'est pas ce qu'on appelle l'Évangile de la prospérité, cet faux Évangile où certains pasteurs avides invitent leurs paroissiens à donner généreusement de l'argent à l'Église avec la promesse explicite qu'ils seront largement récompensés matériellement à leur tour dans cette vie même, et même rapidement dans cette vie. Cette promesse-là est mensongère, pastoralement désastreuse et franchement indigne de l'apôtre Paul. Nous venons de voir que Paul, lui, nous invite plutôt au contentement avec ce qu'on a déjà. Mais il est clair pour Paul que ce contentement que nous avons en Jésus, nous libère de donner généreusement. Et Dieu, qui n'a pas de dette ou qui n'a pas de débiteur, récompensera tous ses investissements dans la vie à venir. Jésus lui-même en a donné une illustration. Il a parlé de la parabole des talents. Dans cette parabole, le maître donne à chacun de ses serviteurs des sommes d'argent. Ensuite, le maître quitte le pays, il s'en va pour un certain temps. Ensuite, quelques années plus tard, il revient. Il passe en revue les investissements de ses serviteurs. Et il les récompense à l'échelle du fruit de l'argent investi. Alors, quand on y pense, tout est toujours par grâce. C'est comme un parent qui reçoit un cadeau de son enfant. Le père ou la mère est dans la joie en recevant le cadeau, même s'il sait que l'argent pour acheter le cadeau était en fait finalement le leur. Si nous pouvons donner, ou si nous pouvons nous donner pour l'œuvre de la bonne nouvelle, c'est parce que Dieu nous a donné gracieusement ses moyens à lui. Et ensuite, dans sa bonté, il nous récompense. Saint Augustin l'exprime ainsi. Dieu ne couronne pas nos mérites, mais ses propres dons. C'est grâce sur grâce. Et Paul veut que le compte bancaire céleste des Philippiens soit plein à craquer, débordant de fruits ou d'intérêts au jour de Christ. Il veut que le Père leur dise, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Alors Paul n'est pas en train de nous inciter à avoir une vision, perspective purement mercantile du service chrétien. Paul n'est pas un trader qui fonctionne en termes de dollars, de primes et d'intérêts, parce que Paul voit ses dons comme des sacrifices. Au verset 18, il dit, « J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Donc même nos dents trouvent la inspiration, la source dans le sacrifice de Jésus. Alors si on peut parler de nos dents comme un sacrifice, c'est dans un sens seulement. Nos sacrifices ne cherchent pas à obtenir quelque chose de Dieu. Il n'y a que le sacrifice de Jésus qui peut obtenir quelque chose de Dieu. Si nous donnons à Dieu, ou à l'œuvre de l'Évangile, ou si nous nous donnons à Dieu ou à l'œuvre de l'Évangile, ça doit être par gratitude, par reconnaissance, simplement par amour pour lui. C'est notre réponse à l'Évangile. Dans sa lettre aux chrétiens de Rome, Paul invite les chrétiens à offrir leur corps, c'est-à-dire toute leur vie, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de leur part, de notre part, un culte raisonnable. C'est cette générosité sacrificielle qui caractérise le chrétien qui a été saisi par la grâce. Dieu lui a tout donné en Jésus, et en retour, le chrétien veut tout donner au Seigneur. Pas pour gagner quelque chose, il a déjà en Jésus, mais simplement pour dire merci. Nos dons doivent découler de notre contentement en Jésus et refléter ce désir simplement de dire merci à Dieu, de plaire à Dieu. Dieu voit nos cœurs. Il s'intéresse d'abord à notre attitude. Ce n'est pas une question de quantité absolue. Rappelez-vous l'exemple de la veuve dans l'évangile de Marc. En termes absolus, elle a donné très peu au temple, mais elle a donné généreusement du peu qu'elle avait. Et sa confiance en le Seigneur a été chaudement recommandée par Jésus lui-même. Donner de manière généreuse, donner de manière sacrificielle est un acte de foi, de confiance en Dieu. Et c'est pour ça que Paul dit au verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » On peut donner de manière généreuse, de manière sacrificielle, parce que Dieu connaît nos besoins. Dieu prend soin de nous. Alors ceci étant dit, Dieu ne nous invite pas à être imprudents. D'autres passages parlent de l'importance de prendre bien soin de nos familles, de pratiquer l'hospitalité, à donner de l'argent à ceux qui sont dans le besoin, de bien gérer nos finances pour ne pas avoir à dépendre de l'aide des autres. Alors puis je prends cette occasion de nous inviter à réfléchir à cet aspect de notre vie chrétienne. Et notre engagement en tant qu'associé dans l'œuvre de l'Évangile, ici à la Garenne-Colombe, ou peut-être dans votre église, si vous êtes un visiteur ce matin. Dieu nous a déjà richement bénis ici, dans cette église, sur le plan matériel, même au-delà de nos attentes. En même temps, après 2 ans de culte, on est quand même une jeune église, 2 ans de vie d'église ensemble, nous ne couvrons pas entièrement toutes nos dépenses. Nous n'avons pas encore atteint notre autonomie financière. Ça veut dire que nous dépendons toujours des dons d'autres chrétiens ailleurs qui donnent de manière généreuse, de manière sacrificielle. Mais c'est en même temps une source de reconnaissance envers le Seigneur que nous dépendons de moins en moins de ces dons extérieurs. Ce qui veut dire qu'à terme, d'autres ministères, d'autres personnes peuvent bénéficier de ces dons extérieurs. Ils peuvent être alloués ailleurs. Et quand enfin nous parvenons à cette autonomie sur le plan financier, ce ne serait pas simplement pour être tranquille ou pour vivoter ou pour avancer à un rythme de lent de croisière, mais pour avancer, pour soutenir d'autres ministères, pour être généreux envers d'autres en France ou à l'étranger, mais aussi à la Garenne. Comme pour l'apôtre Paul, on le voit bien dans ce passage, les frais de ministère ne sont pas d'abord les bâtiments ou les loyers. Ce sont souvent des frais liés aux personnes qui annoncent l'évangile, qui encouragent, qui enseignent, qui prient, qui par exemple, qui peuvent œuvrer parmi les enfants ou parmi les étudiants ou des stagiaires ou à des mi-temps, ce genre de choses. Paul veut que nous soyons ambitieux. Ambitieux pour l'avancement du royaume. Il ne veut pas créer un esprit de comptable, mais un esprit d'entrepreneur qui avance, qui prend des risques, qui veulent que d'autres entendent l'évangile. Que d'autres soient fortifiés dans la foi et ensuite envoyés à leur tour pour proclamer l'amour de Dieu pour tous les hommes. Alors puis-je vous inviter, puis-je m'inviter aussi, à la lumière de ce passage, à considérer où nous en sommes par rapport à ces grands principes de contentement dans le Seigneur, de générosité sacrificielle et de confiance en lui. Paul a dû apprendre ces choses, les Philippiens aussi. Ce n'est pas forcément facile, ils ont dû y réfléchir. Sans doute, ils ont fait des budgets, ils ont passé en revue leurs dépenses, la priorité. Ils ont peut-être prié ensemble, en famille, ils ont dû se discipliner. Et chacun a dû décider librement, dans le secret, devant Dieu, de ce qu'il pouvait raisonnablement donner, tout en respectant ses engagements ailleurs. Ils ne l'ont pas fait par contrainte, ou par un esprit légaliste, ou pour gagner l'approbation de Dieu ou l'approbation des hommes, mais simplement parce qu'ils avaient la joie de connaître le Seigneur. Il était devenu leur vie, leur justice, leur espérance. Et fort de la grâce, dans la joie de cette nouvelle relation, leur vie tout entière, jusqu'à la portefeuille, était tournée vers ce but que Paul résume si bien au verset 20. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors puisse cela être notre but dans cette Église cette semaine, mais au-delà de cette semaine aussi. Je vous invite à la prière. Prions. Merci notre Père de ce que nous sommes véritablement riches en Jésus-Christ. Merci pour tout ce que nous avons en lui. Merci pour le pardon, merci pour la justice, nous sommes couverts de sa justice. Nous avons ton approbation, tu nous aimes pleinement. Et aujourd'hui, demain, ça ne changera pas parce que nous sommes couverts de cette justice. Merci pour cette richesse, merci pour la joie de te connaître par lui. Merci pour l'espérance que nous avons en lui. Merci de ce que le meilleur est toujours à venir. Aide-nous, notre Père, à être content. Tu sais, les difficultés, les choses difficiles de la vie, ton fils a connu la pauvreté. Tu connais nos circonstances, nos moments difficiles, les fins de mois qui sont parfois difficiles pour certains, l'abondance pour d'autres. Aide-nous à être centrés sur Jésus. Donne-nous un cœur qui se donne pour ton évangile, pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus. Amen.